Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Dieu n'est pas assis dans un fauteuil à regarder ce qui se passe sur Terre comme au cinéma. Il a un grand plan et il se sert parfois des hommes pour l'accomplir. Par exemple, il institue les autorités qu'il souhaite voir en place. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Il y a cependant une réserve à ceci. En effet, lorsque le Sanhédrin eut interdit aux apôtres Pierre et Jean de parler et d'enseigner au nom de Jésus, ils leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Un peu plus tard, alors que le souverain sacrificateur réitéra son interdiction, Pierre et les apôtres ajoutèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Dans certains cas, Dieu intervient sur la scène politique mondiale, comme ce fut le cas avec le roi Nebuchadnezzar. L'Éternel confia au prophète Jérémie un message destiné au roi d'Édom, de Moab, d'Ammon, de Tyr, de Sidon, ainsi qu'au roi Sédécias de Juda. Ce message déclarait « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. » Il agit ainsi. Malheureusement, avec le temps, le cœur du roi Nebuchadnezzar s'enfla d'orgueil, malgré l'avertissement que Dieu lui avait donné dans un songe que le prophète Daniel lui expliqua. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans son palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Lorsque le roi retrouva la raison, il avait appris une dure leçon et déclara « J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ? » Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nebuchadnezzar devint un outil entre les mains de Dieu. Dieu se servit de lui pour déporter le peuple de Juda en Babylone. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Plus tard, Dieu se servira de Cyrus, roi de Perse, pour rebâtir Jérusalem. Ésaïe avait annoncé bien avant la naissance de Cyrus, « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Lorsque le temps fixé par Dieu arriva, Cyrus ordonna la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. En examinant les Écritures, nous constatons que Dieu met parfois en place différents personnages dans un but précis, un but qui n'était pas toujours dévoilé au moment même où ces événements se déroulaient. Mais il fut compris plus tard. Prenons le cas de Joseph. Ses frères se débarrassèrent de lui en le vendant à des caravaniers qui l'emmenèrent en Égypte. Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'acheta. L'Éternel faisait prospérer tout ce que Joseph entreprenait. Son maître l'établit sur sa maison, et cela dura jusqu'au moment où il refusa les avances de l'épouse de son maître. Par dépit, elle l'accusa et il fut jeté en prison où il resta plus de 2 ans. Pharaon fit appel à lui car il avait eu 2 songes, les 7 vaches grasses et les vaches maigres, les 7 épigras et les 7 maigres. Lorsque Joseph révéla la signification de ces 2 songes, Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Après les 7 années de récolte abondante, survint la famine et, de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Cette sécheresse avait donc atteint de nombreux territoires. Jacob, le père de Joseph à qui les frères de Joseph avaient fait croire à sa mort, envoyait ses fils acheter du blé en Égypte. Lorsqu'ils se trouvèrent devant Joseph, il comprit la raison de ce qui lui était arrivé. Il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dans ce message, le mot « père » est un titre honorifique qui était décerné aux princes et aux grands dignitaires en Orient. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph lui dirent « Nous sommes tes serviteurs ». Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu se servit des événements de la vie de Joseph pour que la haine de ses frères se transforme en bénédiction aussi bien pour Joseph que pour le peuple égyptien. Pour atteindre ce résultat, Pharaon fut un instrument entre les mains de Dieu. Examinons l'exemple de Moïse. Le pharaon de son époque décréta que tous les garçons qui naîtraient devaient être jetés dans le fleuve. Il voulait ainsi empêcher que la descendance d'Israël ne s'accroisse, car le peuple devenait trop nombreux. Lorsque Moïse vint au monde, Dieu le protégea et il fut adopté par la fille de Pharaon. À l'âge de 40 ans, il visita ses frères, les fils d'Israël. Il tua un Égyptien qui maltraitait ses frères et il s'enfuit dans le désert. 40 ans plus tard, lorsqu'il avait 80 ans, Ce fut l'épisode du buisson ardent et, à la demande de l'Éternel, il se présenta devant Pharaon pour demander la libération du peuple. Nous connaissons ce que furent les 10 plaies d'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. En fait, il laissa son cœur s'endurcir car le roi d'Égypte refusait de s'humilier devant lui. Dieu occasionna des événements qui permirent à Pharaon de s'obstiner dans sa voie. Dans sa miséricorde, l'Éternel accorda à Pharaon de nombreuses occasions pour changer d'attitude. À chaque plaie, il donnait à Pharaon l'occasion de se repentir. Au lieu de cela, il s'entêtait. Le cœur ingrat du roi d'Égypte s'endurcit devant la miséricorde dont Dieu faisait preuve envers le peuple d'Israël. Dieu s'était servi de Pharaon pour démontrer aussi bien aux Israélites qu'aux Égyptiens sa puissance, car il voulait qu'ils sachent qu'il était l'Éternel, le vrai Dieu, et que tous les faux dieux d'Égypte n'avaient aucune valeur. C'est la raison pour laquelle les plaies s'abattirent aussi sur les animaux, car ceux-ci étaient divinisés par les Égyptiens. Pharaon et ses troupes périrent dans la mer Rouge. Là encore, Dieu s'était servi de Pharaon pour montrer sa gloire et sa puissance. Moïse conduisit ensuite le peuple à travers le désert vers la terre promise, mais cette génération-là n'y entra pas. Elle avait trop rouspété. Elle s'était trop rebellée. Elle erra dans le désert pendant 40 années. Moïse lui-même n'y entra pas et mourut devant la terre de Canaan, dans laquelle il avait tant espéré entrer pendant 40 ans. Mais il la vit de loin. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Nous pouvons tirer de grandes leçons de ces récits. L'historien Flavius Joseph les exprime très bien en écrivant au sujet des prophéties de Jérémie et d'Ézéchiel sur Sédécias et Nebuchadnezzar, ce qui suit. Cet exemple peut faire connaître, même aux plus stupides, quelle est la puissance et la sagesse infinie de Dieu, qui sait faire réussir par divers moyens et dans les temps qu'il a résolus tout ce qu'il ordonne et qu'il prédit. Et ce même exemple fait aussi voir l'ignorance et l'incrédulité des hommes, dont l'une les empêche de prévoir ce qui leur doit arriver, et l'autre fait qu'ils tombent quand ils y pensent le moins dans le malheur dont ils ont été menacés, et qu'ils ne les connaissent que lorsqu'ils les ressentent et qu'il n'est plus en leur pouvoir de les éviter. Je pourrais encore vous parler de tous les miracles que Dieu opéra après la sortie d'Égypte pour que son peuple puisse entrer en Palestine. Lorsqu'il fut question de construire le tabernacle, Dieu accorda des dons spéciaux à certaines personnes pour qu'elles accomplissent ce qui avait été ordonné. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsaléel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Dieu a également fait de grandes choses pour que les prophéties concernant la première venue de son Fils, Jésus, notre Sauveur, s'accomplissent. Si vous voulez recevoir l'étude qui traite de ce sujet, il vous suffit de nous écrire et elle vous sera expédiée gratuitement. Aujourd'hui, Dieu continue d'intervenir dans certains cas. La main puissante de Dieu agit sans que les hommes ne s'en rendent compte. Nous voyons dans le monde, particulièrement en Europe, des événements prophétisés qui se concrétisent et des choses se mettent en place pour que la prophétie relative au retour du Christ s'accomplisse. La semaine prochaine, je vous expliquerai ce que Dieu a fait pour l'apôtre Paul, jusqu'à intervenir auprès des plus hauts personnages de l'Empire romain, afin que Paul puisse accomplir la mission qui lui avait été confiée.